Studio Tamani, voici les informations en français.
À la mise en onde, Mamadi Keïta, présentation Sekou Gadjigo, voici les titres de cette édition. Plus de 12 milliards de francs CFA pour renforcer la résilience des communautés vulnérables au Mali. Le projet lancé hier est une initiative du gouvernement malien, de l'UNICEF, la FAO et le PAM. Les échanges commerciaux deviennent difficiles dans le nord du pays à cause de l'insécurité. Les commerçants écœurés interpellent les autorités. À Emeler, dans la commune de Sokoura, cercle de Mopti, la déscolarisation des filles inquiète les mamans. Selon certaines d'entre elles, leurs filles quittent l'école au profit du mariage précoce. Voilà pour le titre, le développement tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Un projet conjoint pour renforcer la résilience des communautés vulnérables à l'insécurité alimentaire, la malnutrition et les effets du changement climatique au Mali a été lancé hier à Bamako. Ce projet est mis en œuvre par le gouvernement malien, l'UNICEF, la FAO et le PAM. Il prendra en compte 147 communes des régions de Sikasso, Ségou et Bougouni. Il est financé à hauteur de 12,8 milliards de francs CFA pour une période de 4 ans. Les détails avec Lala Aïcha Wallet Info.
Pour la représentante de l'UNICEF par intérim, Andrea Berter, ce projet va cibler directement près de 150 000 personnes et plus d'un million de personnes indirectement touchées par les crises multidimensionnelles.
Le projet va contribuer à réduire le taux de malnutrition, à mettre en place des systèmes pour tout ce qui est la production et dans une façon multisectorielle.
Quant au représentant d'ICIED au Mali, Richard Bankoma, la CIED intervient pour renforcer la résilience des populations les plus vulnérables de Ségou, Sikasso et Bougouni. Cette intervention concerne les femmes et les enfants dans certaines communes de ces trois régions.
Nous savons que le Mali, aujourd'hui, est confronté à plusieurs défis affectés par l'insécurité alimentaire, la malnutrition et les effets du changement climatique. Notre partenariat permettra de s'attaquer aux causes sous-jacentes de la vulnérabilité et de contribuer à des systèmes alimentaires.
Les effets du changement climatique au Mali ne sont plus à démontrer, souligne le gouvernement malien. Il indique que ce projet est une aubaine pour atténuer les souffrances de ces populations et sert de plan de réponse contre les conséquences du changement climatique.
Malgré le financement de ces projets de résilience, l'insécurité alimentaire s'accentue encore dans le pays, regrette Yacouba Dogoni, sociologue-chercheur. Il invite les autorités à aller vers l'automatisation de l'agriculture en formant les paysans. Yacouba Dogoni, sociologue, jette au téléphone par Lala Aïcha Wallet Info.
Le Mali est extrêmement bien arrosé par deux grands fleuves. Et le Niger, c'est le fleuve qui traverse presque la grande moitié du pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que depuis le début des années 90, au début de l'avènement de la démocratie, nous avons assisté à une politisation du pays et tous les secteurs qui sont liés à la gouvernance du pays. Et aussi, le président des ONG ne constitue pas vraiment à faire des investissements à long terme. Sinon, si on voulait vraiment faire face, les solutions sont très simples. Il faut vraiment continuer à former et équiper les paysans. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'aller vers la mécanisation de l'agriculture qui va permettre aux producteurs de produire en quantité suffisante pour pouvoir couvrir tous les besoins alimentaires du pays.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le personnel du centre hospitalier de Point-G serait en grève de 5 jours depuis hier lundi. Ce arrêt de travail est motivé par 9 points de revendication, dont l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents. Sur place à l'hôpital, la situation est confuse. Certains services fonctionnent, mais d'autres sont en arrêt de travail. Et la direction générale du centre refuse tout commentaire. Nos reporters Alice Issé et Moussa Agmahaha ont fait un tour au Point G.
au centre hospitalier universitaire du Point G, ce lundi matin, les devantures de certains départements étaient quasiment désertes. Au niveau du service d'urgence et de réanimation, la file d'attente n'est pas au rendez-vous. Du côté de l'imagerie et l'échographie, on pouvait compter le nombre de personnes en attente devant le service du bout des doigts. Le major affirme que tout le personnel est présent et qu'ils n'attendent que les bulletins des patients pour faire leur travail. Par contre, au niveau du service de cardiologie, les salles de consultation sont vides et les rares bureaux ouverts sont inoccupés. Au même moment, l'entrée du service d'urologie est bondée de monde. Mais le major du département nous a confié qu'il n'y a pas de service. Approché, le directeur général de l'hôpital nous affirme qu'il ne fera aucune communication par rapport à cette situation. À son niveau, il n'y a aucune grève.
La recrudescence de l'insécurité dans le nord du Mali impacte aussi les échanges commerciaux dans la zone. C'est du moins ce qu'affirment des commerçants de cette région. Ils ajoutent qu'ils sont confrontés aux djihadistes, aux bandits armés. Une situation qui, selon eux, restreint leurs mouvements commerciaux. Le reportage de Abdoulaye Touré avec le concours de nos correspondants Dansongo et Mourem.
Je ne peux plus aller à Gao, ni au Niger, ni au Burkina, regrette ce commerçant dans le cercle d'Ansongo. Selon lui, les conditions ne sont pas réunies pour sécuriser les marchandises.
Chaque fois, on a des braquages sur la route. C'est des bandits armés qui sont là pour donner vraiment leur loi dans la zone. C'est tout pour l'insécurité.
C'est le même constat dans le cercle de Bourem. Le président des commerçants de la localité affirme que dans cette période de crue, les pinas sont le moyen essentiel des ravitaillements. Ce n'est toutefois pas suffisant, ajoute-t-il.
C'est par pénance qu'on arrive à nous approvisionner. Mais les produits manquent. On n'a plus de sucre. L'huile est chère.
Les commerçants de ces localités exhortent les autorités à trouver des solutions pour sécuriser les routes d'approvisionnement.
Allons à Kita à présent, où une sensibilisation sur la mutilation génitale féminine et VBG est en cours depuis quelques semaines dans la région. Une activité mise en œuvre par le service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Selon les responsables de ce service, l'objectif est d'informer les populations sur les conséquences de ces pratiques et les services auxquels il faut faire recours. L'activité est financée par l'UNICEF. Le corps d'un homme d'une soixantaine d'années a été retrouvé dimanche dernier dans la forêt classée de la Faya dans la région de Koulikoro. Selon la protection civile, la victime se serait pendue. Le corps a été remis à la gendarmerie pour l'identification et a déterminé les circonstances de sa mort. Place à présent à ce dossier. Le maintien des filles à l'école est une problématique à Emeler, dans la commune de Sokoura, cercle de Mopti, au second cycle d'Emeler. Plusieurs filles ont quitté l'école pour un mariage précoce. Les filles de ce village sont généralement mariées à l'âge de 13 à 15 ans. Certaines mères sont inquiètes face à la situation. Le reportage de notre envoyé spécial à Mopti, Fatoumata Kodjo.
C'est une situation difficile pour certaines mères de Meler. Elles trouvent malheureux de faire sortir une fille en plein cursus scolaire.
Certains parents n'ont pas compris, car ils marient leur fille qui arrive jusqu'au niveau de la 6e année, même quand elle n'atteint pas l'âge de 18 ans. Cela peut leur causer des ennuis.
Lorsqu'elles se marient avant l'âge, certaines tombent malades, d'autres meurent, et il y en a même qui ont des problèmes mentaux.
Mamadou Traoré, directeur du second cycle de Meler, aborde dans le même sens. Plusieurs filles de sa classe ont été retirées précocement de l'école pour des mariages sans suite.
Cela vaut 2 ou 3 ans qu'ils ont marié la première de notre classe de 7e année. On a essayé d'intervenir, mais ils n'ont pas voulu écouter. Finalement, ce mariage n'a pas abouti. Et il y a une autre aussi, qui était toujours la 2e ou première en classe de 9e année. Ils l'ont mariée elle aussi.
Selon les chefs du village, c'est une tradition chez les Bella. Ils indiquent que les sensibilisations sont en cours pour maintenir ces filles à l'école. Fatoumata Kodjo, des retours de Mopti pour Sidjo Tamani.
La rubrique Zoom sur nous amène aujourd'hui à Ségou et elle nous parle du poids de la parole, faculté de s'exprimer par le langage articulé. La parole à Ségou est sacrée. Ici, chaque mot vaut son pesant d'or. Articuler la parole, parler avec le regard, la gestuelle, le silence, tout cela est de mise dans la région de Ségou. Il faut remuer cette fois la langue avant de parler. Notre rubrique Zoom sur est présentée par Idrissa Sako.
Tout se dit à Ségou. Disons tout et gardons le reste. La parole est un couteau à double tranchant. Voilà autant d'adages ou de sentences qui illustrent la complexité et la tournure que peut prendre une expression. À Ségou, la parole est donnée, on ne la prend que sur autorisation. Ici, il n'est pas rare d'entendre qu'une image vaut mille mots, mais ces derniers ont un poids et un sens dans la communication. Dans vos prises de parole, il est important de bien les choisir et de bien les énoncer, bien les articuler, car les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. I hakilitu inena. À Ségou, on aime à dire aussi que les paroles viennent du cœur, du plus profond de soi, et l'on peut être lié par nos paroles. Comme Mabemene Idalakandema. La nature, qui ne nous a donné qu'un seul organe pour la parole, nous en a donné deux pour lui, afin de nous apprendre qu'il faut plus écouter que parler.
À 8h passées de 2 minutes s'achève cette édition qui vous a été présentée par Sékou Gadjigo, mise en onde par Mamadi Keïta. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Aïssata Diarra sera là pour le journal en Bamanankan. Malikoura, on entend de plus en plus ce terme au Mali en lien avec le processus de refondation. L'objectif serait de parvenir à un changement de comportement au niveau de chaque Malien pour un pays développé et stable. Cette refondation doit également se faire sur la base de sacrifices, soulignent des observateurs. Les Maliens sont-ils donc prêts pour le Malikoura? Le pays a-t-il les moyens de ses ambitions? Le magazine Malikoura s'intéresse au sujet. Il est réalisé et présenté par Khalifa Goïta et Youssoufa Maïga.
À Bamako, notamment dans les grains, les services et presque partout, on parle de Malikoura. Ils sont nombreux ceux qui espèrent au changement et utilisent ce terme depuis ce que les autorités maliennes appellent la rectification de la transition. Pour d'autres, l'air a sonné de réunir les conditions pour le Malikoura.
Les Maliens sont prêts à un changement de comportement par rapport à la gestion du pays. Mais en réalité, dire qu'on peut aller seul, moi je dirais non.
Le Malikoura, là, ça ne vient pas du ciel. C'est un changement de mentalité. Je ne dirais pas que les conditions ne soient pas réunies, mais on ne veut pas réunir les conditions.
J'ai confiance au slogan Malikoura.
Dans nos cœurs, les Maliens sont prêts à 100%. Seulement, on n'a pas les moyens.
Tout le monde parle de Malikoura, mais ça ne peut se réaliser tant que les Maliens ne se donnent les mains.
On n'arrive pas à subvenir à nos besoins. Comment parler de Malikoura? Il n'y a pas de nourriture. Les gens sont malades. Cherchons plutôt à résoudre ces problèmes d'abord.
Le politologue Balan Diakité souligne que toute la problématique des aides publiques au développement destinées au continent africain, notamment au Mali, se résume à leur rendement.
Ces aides continuent, mais les États africains demeurent toujours parmi les pays les plus pauvres dans le monde. Pour un pays qui est habitué à recevoir ces aides-là, c'est difficile pour ce genre de pays de s'en passer. Des États qui sont les plus puissants aujourd'hui bénéficient de ces aides-là. Donc, vous dire que ces aides sont nécessaires, qu'on ne peut pas nier, mais dans la plupart du temps, les aides sont accompagnées d'un certain nombre de conditionnalités qui ouvrent effectivement la voie à une ingérence extérieure des partenaires.
Pour les aspects économiques, Oumar Bitibali estime qu'il revient aux autorités maliennes de mettre désormais l'accent sur un certain nombre de facteurs. Écoutons l'économiste.
La mendicité ne profite pas à l'homme. C'est vrai que cette aide-là amène quelques brutilles pour les gens, mais cette aide-là, ça vient d'où? Ce sont nos propres ressources. Toute l'Afrique le sait que c'est nos ressources minières qui reviennent sous forme d'aide dans nos pays. Économiquement, ça va être un peu difficile parce que nous n'avons pas d'assises propres à nous-mêmes, mais seulement la volonté prime. Il faut que nos dirigeants sachent que le développement d'un pays, ça passe d'abord par le développement de l'agriculture, de l'agro-business, ensuite les industries de transformation et le développement des services. Il y a des secteurs qu'il faut développer forcément. Tous les pays des zones développées ont passé par ça. Il faut se départir de l'aide. L'aide est nécessaire, hein, mais pas l'aide à n'importe quel moment.
Il n'est toutefois pas exclu que le Mali et la France retrouvent de bonnes relations diplomatiques compte tenu de l'histoire qui lie les deux pays. C'est l'avis du politologue Balan Diakité.
relations entre les deux pays connaissent aujourd'hui une très grande difficulté, mais de là à être trop alarmiste, il faudrait bien évidemment tenir compte du fait que entre les deux pays, il y a pas mal de choses qui nous lient. Et donc, je suis convaincu que ça, c'est juste une parenthèse, et qu'ils puissent continuer effectivement sur la voie des relations diplomatiques paisibles qui les ont caractérisées depuis plus de 50 ans.
Il faut souligner que ces propositions ont été également abordées l'année dernière lors des Assises nationales de la Refondation qui ont débouché sur plus de 350 recommandations. C'est ce qui met fin à ce numéro de magazine Malikroa. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.